Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La Suède, c'est 60 jours. L'Italie, simplement, c'est 5 jours, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on pourrait faire presque un rapport entre la sociologie italienne, pays peut-être qu'un peu macho, qui considère que les femmes doivent s'occuper des enfants et peut-être moins les hommes. Et en France, on va donc passer à 28 jours. Cédric, vous êtes consultant et vous étiez précurseur.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je travaille au Luxembourg et pour mon premier enfant qui va avoir 17 ans, moi, je me suis arrêté pendant 6 mois.
Et vous aviez les moyens quand même de vous arrêter? Parce que tout le monde, ça, c'est un coup de s'arrêter financièrement.
C'est un coup, mais en Luxembourg, on va dire que l'aide à la famille est quand même rien à voir avec la France, en fait. Et donc, le congé parental était quand même relativement payé correctement à l'époque, et maintenant, il est encore plus. Donc, à l'époque, honnêtement, pour être transparent, j'avais une allocation de 1800 euros net.
Et votre épouse travaillait?
À l'époque, oui, elle travaillait, mais pas à temps plein.
Hein, de toute façon, elle n'avait pas repris, par définition. Donc vous étiez tous les deux à s'occuper de cet enfant?
Non, elle l'a pris d'abord, le premier, et moi j'ai pris, elle l'a pris tout d'abord en premier, parce que ce n'était pas exactement la même formule que là qui est proposée, c'est-à-dire de le prendre en même temps, mais je me suis arrêté de ces 9 mois à ces 15 mois.
Bon, et aujourd'hui cet enfant il a 17 ans, est-ce que vous trouvez que le lien que vous avez créé à ce moment-là a eu des conséquences pour toute sa vie?
Bien sûr, parce qu'on on s'investit dans la relation, on s'investit dans la relation avec l'enfant, toute la journée ben, on est avec lui, donc c'est des liens qu'on tisse pour la vie, pour moi, ça. Mmh. C'est irremplaçable, une relation, s'arrêter de travailler pour élever son enfant. Souvent, on dit c'est pour les femmes, mais non, il faut voir un peu plus loin que ça, et puis c'est pour tout le monde, en fait. Il faut avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande. Et pourquoi toutes les tâches doivent toujours revenir aux mamans? Pourquoi les mamans toujours doivent donner uniquement les biberons, doivent s'occuper de toutes les tâches? Il y a l'enfant, mais il y a tout ce qui va avec quand on a un enfant. Hein, dans les premiers jours de la vie d'un enfant, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de visites. Gérer ça tout seul, si le papa n'est pas là, c'est pas évident, je trouve. Alors que là, maintenant, avec le congé parental de 28 jours, je trouve que c'est une avancée majeure.
Même si c'est 28 premiers jours, disons-le, un enfant, je pense qu'il doit dormir 16 ou 18 heures par jour. Hein, il est beaucoup, évidemment, couché dans le berceau. Il est
normalement.
Oui. Bah, oui.
Normalement.
Donc,
si je vous parle du mien, le mien, il dormait même pas 10 heures par jour.
Ah oui, c'est peut-être parce que vous étiez là.
Non, mais bah, voilà, il ne faut pas généraliser.
Non, mais vous inquiétez.
Mais les premiers jours de la vie d'un enfant.
Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on va être avec Philippe, parce que Philippe, lui, il a un rapport économique. Et tout à l'heure, on sera avec Sophie de Manteau, qui est chef d'entreprise. On sera également avec le docteur Gilles Lazimi, qui est membre de la commission d'experts des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Et Philippe, qui est chef d'entreprise, vous avez 4 salariés et vous pouvez être inquiet. Pourquoi cela? Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal Pro. Ben, inquiet parce que je me dis que si un de mes salariés qui ont une trentaine d'années avait le bonheur de devenir papa, s'il s'absentait 28 jours, l'entreprise, ça va être assez compliqué.
C'est obligatoire hein, de toute façon, hein. Vous n'aurez pas le droit d'y couper.
J'en
ai
discuté avec un d'entre eux qui était là ce matin, il me dit mais en plus, j'aurai pas le choix, ça sera obligatoire.
Bien sûr, donc, c'est obligatoire.
Ben oui, mais. Et en plus, vu le timing, vu la période actuelle, annoncer ça maintenant, pour moi, chef d'entreprise, je me dis ça fait bizarre. Il y a 6 mois, M. Macron nous disait qu'on était en guerre contre un virus. Mmh. Et puis là, il est en train de dire à ses troupes, je double vos temps de permission. Il y a quelque chose pour moi qui sonne...
Vous êtes dans quel secteur d'activité?
Dans l'informatique.
Et évidemment, vous ne pouvez pas vous passer de un quart de votre effectif, vous êtes 4. Donc c'est compliqué pour vous. Donc qu'est-ce que vous ferez dans ces cas-là? Vous remplacerez? Parce que le nombre de jours obligatoires n'est pas défini encore. Je crois que c'est 28 jours, mais le nombre de journées obligatoires n'a pas encore été défini.
Mais on remplacera si on peut. Déjà, trouver un technicien en CDI, c'est très compliqué. Trouver un CDD de un mois, on va dire, ça va être encore à mon avis, plus compliqué. Et ce que je disais en plaisantant à la personne qui m'a répondu quand j'ai appelé, j'ai dit j'espère que mes salariés ne vont pas se mettre en couple parce que là, je ferme la boutique.
Oui. Vous avez, alors, sur les 4 salariés, vous avez combien d'hommes et combien de femmes ?
2 hommes, 2 femmes. C'est la parité chez nous.
Bon, si ça avait été une femme, si c'est une femme, vous ne poseriez pas ces questions-là, le congé de maternité,
non,
par
mais là,
définition.
Que, bon, alors après, on va dire que c'est, mais de toutes, enfin, les 2 hommes, ce sont des techniciens. Les autres travaillent aussi, mais moi, je peux faire de la compta quand la comptable n'est pas là. Enfin, c'est plus simple. Mais
donc, vous voulez dire, c'est que le rôle des hommes dans votre entreprise est
dans
plus
mienne,
décisif, oui, non, bien sûr, bien sûr, et plus décisif pour la bonne marche de l'entreprise que.
Absolument.
Ouais.
Et puis moi, j'entendais l'auditeur précédent. Je sais pas. Enfin, les 28 premiers jours d'un enfant, certes, c'est important, mais est-ce que ça va jouer sur toute sa vie? Enfin, mes parents ont eu 4 enfants. Moi, j'ai l'exemple. Alors, je ne me rappelle pas quand j'avais, franchement, 28 jours. Je ne me rappelle pas ce que faisait mon père.
Je sais très bien ce qu'il faisait mon père quand j'avais 28 jours. Ça, je peux vous le dire.
Il travaillait. Non, mais oui, mais je ne me rappelle pas. Enfin, vous ne vous rappelez pas quand vous aviez 28 jours. C'est ce que je veux dire.
Ouais.
Mais moi, l'exemple que j'ai, quand j'avais... Exactement, c'était au contraire, c'était l'exemple de mon père qui travaillait, on était content de le voir le soir, et il m'a donné une chose dont on ne parle pas, la valeur travail. Alors après, j'entends dire, oui, on est toute la journée avec, etc. On travaille déjà que 35 heures par semaine, enfin, il ne faut pas exagérer, mais enfin, je ne sais pas. Moi, j'étais fier de mon père, il nous a élevés, on partait en vacances avec lui, et puis j'étais fier de le voir travailler, je ne sais pas, c'était une fierté, et moi, si je suis comme ça aujourd'hui, je le remercie parce que c'est aussi grâce à lui. Là, on va donner. Après, un parallèle avec l'enquête qui a été faite. Après, les enfants à 6-7 ans, on va les mettre devant une tablette ou une télé, puis on va plus s'en occuper. Bon.
Ben merci Philippe. Mais là où vous avez raison, effectivement, c'est que parfois, un enfant se construit avec une image de son père qui est aussi forte parce qu'il est en train de travailler, même s'il n'est pas présent. Précisément, toujours et tout le temps avec lui. Et ce que vous venez de dire est vraiment très juste et très fort même. À tout de suite, 13h08, on va pouvoir parler à un nouveau père. Il nous donnera son expérience, Greg Caradoni. Il a le petit Pio qui aura 2 ans en décembre. Il va nous dire son expérience de nouveau père. Parce que nous, on est d'une autre génération, mais lui est plus récent.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous avons des nouveaux pères au studio, autour de la table.
La jeune génération est là.
Laurent Tessier, père depuis moins d'un an également.
10 mois.
Donc il y a 14 jours, vous avez pris, vous ?
J'avais pris mes 3 jours de naissance complétés avec 2 RTT et ensuite le congé paternité de mon jour à l'heure actuelle, je l'avais pris 4 mois après.
Bon, que nous dit-on ?
Alors. Sur ce sujet qui vous fait réagir sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole et ça sera d'ailleurs le débat à 14h avec Sophie de Menton et le docteur Gilles Lazimi. José salue une bonne mesure passée de 14 à 28 jours ce congé paternité. C'est du bon sens aujourd'hui, les pères ont évolué, bravo, écrit Julie. Plusieurs papas assument et s'occupent pleinement de leur nouveau-né. Ils sont beaucoup plus impliqués qu'il y a quelques années. Une aide précieuse pour les mamans, rajoute Patrice. Les débuts sont très importants. Mais le nouveau chef d'entreprise qui vient de monter sa boîte, il fait comment ? Demande Benoît. Ah bah non, désolé, ma femme vient d'accoucher, donc il continue de travailler. Et pour Martine, les papas n'ont pas besoin de tant de jours de congé pour s'investir avec leur enfant.
L'allongement du congé de paternité sera financé par la Sécurité sociale pour un coût lui aussi doublé et estimé à plus de 500 millions d'euros en année pleine. Les 3 jours de congé de naissance seront toujours à la charge de l'employeur. Les 25 autres jours seront indemnisés par la Sécurité sociale. Nous sommes avec Cédric. Alors un deuxième Cédric, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes dans le Nord, à, comment on dit, Bouzy ?
Oui, Bouzy, ouais, exactement, oui.
Bon.
Enfin, ouais, je ne suis pas actuellement à la maison puisque je pars toujours à la semaine. Donc c'est un bon sujet pour moi, on va dire.
Pourquoi ça ? Vous êtes un père d'enfants ?
Oui, 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 et vous connaissez bien mon fils, Rémi, le dernier.
Ah, Rémi, c'est Rémi qui nous appelle de temps en temps ?
Oui, voilà, exactement.
Formidable,
oui,
Rémi, qui est très jeune et très brillant.
Exactement. Et donc, j'ai une fille de 16 ans et une fille de 19 ans.
D'accord. Donc, vous avez 3 enfants. Vous êtes d'accord ou pas avec ces 28 jours de congé parentel ?
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Ah bon ? Pourquoi ?
Alors, tout simplement parce que, déjà, une petite parenthèse rigolote, on va dire. Hein, c'est parce que les papas, on met 30 secondes pour les faire et la maman, garde son enfant 9 mois, déjà, la première chose.
Je ne saisis pas exactement la force de cet argument, mais peut-être que vous pouvez la développer. Je l'aperçois pas. On est deux quand même pour faire un enfant.
Oui, exactement.
Mais on les fait de manière peut-être différente.
Oui, exactement.
Sans doute même.
Voilà. Et quand j'entends maintenant la nouvelle génération où on dit les papas ont changé, bah moi, ça me vexe. Je ne peux pas dire autre chose. Parce que moi, je ne pense pas avoir oublié quelque chose avec mes enfants depuis ma première fille de 19 ans.
Mais qu'est-ce qui vous gêne là-dedans de rester 28 jours avec votre fille ou votre fils qui vient de naître ?
Bah, moi, j'ai ma femme qui a toujours allaité les enfants. Elle s'en est toujours bien occupée. Je fais totalement confiance à ma femme, donc à la maman. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, je ne vois pas l'intérêt de rester à la maison pendant 28 jours.
Ben justement, de connaître cet enfant qui vient d'arriver, de nouer un lien particulier, d'aider, pourquoi pas, votre épouse qui est un peu fatiguée.
Je l'ai toujours aidée en temps et en heure.
Ben là, vous l'aiderez encore davantage si vous êtes avec elle pendant ces 28 jours, toujours et tout le temps.
Oui, enfin, oui.
En fait, ça vous ennuie un peu, quoi.
C'est nouveau. Ouais. Non, ça ne m'ennuie pas. Mais je ne comprends pas.
Les explications, les arguments, c'est d'abord d'éviter les ruptures professionnelles ou l'inégalité des ruptures professionnelles, puisque quand une femme s'arrête lorsqu'elle vient d'avoir un enfant, un homme lui ne s'arrête pas de la même manière. Donc veut lutter contre cette rupture d'inégalité, ça peut s'entendre.
Alors là, par contre, oui, totalement. Donc dans ce cas-là, tout ce qu'on donne par rapport à la nouvelle loi maintenant, donc c'est-à-dire que ce sera obligatoire pour les papas et quoi que ce soit, dans ce cas-là, on le donne aux mamans. Et comme ça, les mamans seront protégées aussi par rapport à leur travail. Et après, au niveau du couple et en fonction des professions, c'est le couple qui doit décider aussi, forcément. Parce que dans ce cas-là, si la maman gagne 10 000 euros et qu'elle a un super salaire et puis qu'elle a un super travail et que le papa, il ne travaille pas, donc dans ce cas-là, on ne donne que 28 jours à la dame. Et on donne le reste au papa.
Mais dans votre couple, par exemple, il y a une répartition des charges où c'est chacun fait un peu les mêmes choses
On a toujours été habitué déjà, moi, à partir à la semaine. Donc ma femme a toujours tout géré à la maison. Ouais. Je suis d'accord. Mais quand je suis là, j'aide. Forcément.
Oui, c'est la moindre des choses. Si vous n'êtes pas là du lundi au vendredi, au moins, faites semblant le samedi et le dimanche de débarrasser la table.
Oui, tout à fait. Même le ménage, laver les voitures, prendre la pelouse, ça, il n'y a pas de problème.
Oui.
Et gérer un petit peu aussi les enfants le week-end, forcément. Oui.
Bon. Écoutez, si ça fonctionne comme ça, votre épouse, l'important, c'est la liberté de chacun. Les couples, j'ai envie de dire, s'organisent comme ils le veulent. Est-ce que votre épouse est satisfaite?
Écoutez, ça fait 25 ans qu'on est ensemble et on ne m'a pas encore quitté, donc normalement ça doit aller, quoi. Et puis les enfants, c'est pareil, ils le vivent bien, ils le vivent bien, donc après chacun sa place, mais je comprends aussi que les parents, enfin les papas maintenant peuvent avoir plus...
Il y a des nouveaux papas, regardez Grégory Caradoni, il nous écoute, Grégory, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Cédric?
Écoutez, moi j'ai pris mes 28 jours avant même qu'ils existent, c'est-à-dire que j'avais gardé des jours de vacances pour pouvoir justement entre guillemets profiter de ces premiers instants avec mon fils, et j'ai jamais regretté d'ailleurs, parce que c'est des moments qui étaient incroyables, exceptionnels, que j'aurais jamais pu vivre à un autre moment, non seulement si j'avais travaillé bien sûr, et ça m'a permis d'aider mon épouse qui a été alitée quelques jours, quelques semaines. Et alors là, sans rentrer dans les détails, mais j'ai pu faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire, et donc ça a été une expérience de père, mais aussi une expérience de couple, et donc une expérience de famille.
Oui. Alors, vous savez, je ne vais pas rentrer dans
les
détails. Oui, c'est très beau. Mais vous voyez, moi aussi...
Et ça sera encore plus beau après la pub. Parce qu'on va continuer ensemble. Il est 13h17. Je rappelle que ce sera notre duel tout à l'heure. Vous pouvez aussi intervenir sur d'autres sujets. Si vous voulez pas, on va rendre hommage à Bourvil. On reviendra avec une petite chanson de Bourvil. On va parler également de frapper et insulter en pleine rue par trois hommes pour avoir porté une jupe. Vous connaissez cette ignoble attaque, agression dont a été victime une jeune femme. Et puis, moi, cette info que je trouvais quasiment l'info du jour, en 50 ans, les 7-18 ans ont perdu un quart de leur capacité physique. Et un chiffre qui résume tout, une minute, c'est le temps qu'il faut en plus aujourd'hui à un enfant pour courir à 800 mètres. C'est complètement fou. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour.
Il est mort il y a exactement 50 ans jour pour jour. Et il avait 53 ans, ce qui est incroyablement jeune, évidemment. C'est une carrière à la fois courte et qui a fortement marqué les Français par sa gentillesse, sa bienveillance. C'est l'exemple type d'ailleurs de la gentillesse et de la bienveillance. Les gens l'adorent 50 ans plus tard. Et vous pouvez lui rendre hommage si vous le souhaitez. On peut peut-être terminer avec Cédric, la conversation que nous avions. Merci Cédric d'être intervenu.
Oui, Pascal.
Et puis ça a l'air de bien se passer dans votre famille, même si vous n'avez pas été présent les 28 jours.
Oui, tout à fait. Bon, je vais répondre à Grégory.
Oui.
Gentiment.
Mais il n'y a pas de
quoi. Je ne sais pas si son enfant... te rappellera et dira bah tiens, tu seras un meilleur papa que moi parce que t'es resté 15 jours de plus.
Oh non, certainement non. Mais
vous voyez,
mais pour le papa que je suis, ce sera une expérience que je retiendrai. Alors c'est certainement pour l'enfant, mais aussi pour le père.
Oui, ça je suis d'accord avec vous.
Non, après, mais c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité qui est incontestable. Jadis, il y a 30 ou 40 ans, par exemple, dans l'exercice de notre profession, je connais un journaliste dont le fils a accouché. Il était en mission pour les Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. Bon. Bah, il a appris que son enfant naissait alors que lui était à 10 000 kilomètres de là. Mais surtout, il n'avait pas... il était quand même allé à Séoul. Il avait quand même fait les Jeux Olympiques. Bon, aujourd'hui, un enfant de 25 ans qui va avoir... Un jeune adulte de 25 ans qui va avoir un enfant, il ne part pas faire les Jeux Olympiques si les journalistes, il reste auprès de sa femme. Donc c'est des changements de mentalité. Qui fait que alors qui a raison, qui a tort, moi j'en sais rien, mais c'était une autre époque et c'est ça qu'il convient de dire. Alors Florent est là avec nous également. Bonjour Florent.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Bah, vous avez le même âge d'ailleurs que Cédric, vous avez 47 ans tous les deux, donc oui. Ça va être intéressant d'entendre votre témoignage.
Moi, là-dessus je suis pas pour l'histoire des 28 jours. Après, je peux comprendre certaines choses. Maintenant, je pense que chaque famille, chaque couple a sa façon de vivre. Comme Cédric, par exemple, bah, lui, il se déplace en semaine, mais bon, il a créé sa famille en fonction de ça. Après, bah, comme le journaliste qui part à Séoul, bon, mais sa famille, et ça, elle est faite comme ça. Les enfants, après, bah, ils suivent le couple. Bon, après, on peut parler aussi des militaires qui partent 6 mois en campagne. Et puis, bah, quand ils reviennent, ils ont leurs enfants qui ont 6 mois. Maintenant, l'histoire des 28 jours, moi, ce qui m'a choqué un petit peu, c'est quand on dit que c'est pour que le père et que l'enfant ils soient plus fusionnels ou plus ensemble. Moi, j'ai deux enfants, hein, un qui a 13 ans et l'autre 8 ans. Et ben sur les deux enfants, le premier, moi je travaillais encore avec mes parents, donc j'ai dû prendre la journée où ma femme elle a accouché, parce qu'elle a accouché dans la nuit pour les deux. Donc j'ai amené à l'hôpital et puis j'ai appelé pour dire que je serais pas là dans la journée. Et puis j'ai repris une journée après quand elle est sortie de l'hôpital pour rentrer chez nous. Et puis le deuxième, ça a été la même chose, c'est-à-dire j'ai pris 2 jours pour chaque enfant. Et ben aujourd'hui, on est avec mes enfants, on est très fusionnels, hein. Autant qu'avec leur mère. Quand on parle après de l'histoire de l'égalité vis-à-vis de la femme, je rappelle quand même que la femme a été pendant 9 mois à porter l'enfant, elle a accouché. Je pense que question fatigue et tout ça, qu'on lui laisse 3 mois pour récupérer, je peux comprendre. C'est pas la petite contribution du mari qui l'a fatigué, il a eu 9 mois après pour récupérer. Donc, je comprends pas ce truc de parité. Voilà encore. Donc,
bah, vous ne comprenez pas si, vous comprenez l'argument, mais vous le partagez peut-être pas.
Non,
mais la rupture, pour contrer la rupture d'inégalité, ça, c'est assez simple. Alors après, vous pouvez trouver ça pas juste ou pas utile. Mais...
Ben, disons que, voilà, c'est ça, je la trouve pas utile. Maintenant, une fois de plus, je pense que c'est chaque couple qui doit savoir, voilà, quand est-ce qu'il doit faire l'enfant dans les dispositions. D'ailleurs, votre collègue, lui, il a pris des jours de RTT. Bon, c'est son choix.
Vous parlez de Greg Caradoni à l'instant. Hein.
Voilà.
Non, mais parce qu'il incarne une nouvelle génération. Il y a une phrase, moi, que je cite sans arrêt. Un homme, c'est son époque. J'adore cette phrase-là, parce que si j'avais 20 ans ou 25 ans, bah, je serais comme Greg, je pense. J'aurais été formaté dans une période différente. Et puis, si j'avais 80 ans, bah, j'aurais un rapport avec les enfants globalement, comme cette génération l'avait. On est tous les fruits de notre époque.
Moi, le rapport avec les enfants, ma femme, elle allaitait la nuit. Donc moi, je me levais, j'amenais mes enfants pour que ma femme allaite. Et quand elle avait fini l'allaitement, je prenais l'enfant pour aller changer la couche.
C'est bien, vous étiez déjà un père moderne.
Le soir, quand je rentrais, une fois sur deux, j'essayais de rentrer plus tôt. Bon, donc, parce qu'elle, quand elle a recommencé à travailler, donc, elle finissait plus tard. Donc, je faisais prendre le bain aux enfants, je leur donnais le biberon.
Ouais, donc vous êtes vraiment déjà impliqué. Alors que la génération de vos parents l'était moins.
Ah oui, mais tout à fait. Mais n'empêche que c'est pas pour ça que j'en veux à mon père ou tout ça. Donc, je trouve que cet argument de pour que l'enfant soit plus proche de son père, je trouve ça un peu idiot. La deuxième chose, c'est que une fois de plus, c'est encore l'État qui finance ce genre de choses. Comme votre collègue Bruno Caradoni, lui, il a pris des jours de RTT. C'est ses jours, c'est comme ceux qui vont prendre
des vacances. Oui, c'est lui qui l'a vu. Alors là, c'est plutôt le père qui est le plus proche de l'enfant que l'enfant plus près du père. Vous voyez, on veut que le père soit plus près, plus proche, plus impliqué. Ouais, en tout cas, la société le veut.
J'ai pas eu les 28 jours, je suis très proche de mes enfants. Et puis vous allez voir qu'avec les 28 jours, les gens vont plus prendre des vacances à faire des trucs pour certains. Soit on est proche de ses enfants, on ne l'est pas, mais on n'a pas besoin de 28 jours pour de plus.
Enfin, moi, écoutez, on marque une pause et puis la discussion continue.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Oui, monsieur Tessier. Une enquête a été ouverte à Strasbourg après la plainte déposée par une étudiante. Elle affirme avoir été frappée et insultée en pleine rue dans la ville de Strasbourg par trois hommes au motif qu'elle portait une jupe. Et ça vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. Non mais où va-t-on ? Déplore Marie-France, il y en a marre. Il est temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ça commence à être dur de vivre dans ce pays. Ces faits ont malheureusement toujours existé. Déplore Nadine. Laissez-nous nous habiller comme nous souhaitons. Lance Aurélie, c'est dingue de devoir se censurer sur ses vêtements. Chaque matin, certains hommes sont vraiment des lâches, hein, s'énerve François. Ils n'ont rien dans le pantalon, ce manque de respect n'a rien à faire en France. Et bienvenue dans le pays de l'insécurité, conclut Fred.
Et justement, Véronique qui habite Strasbourg voulait intervenir sur ce sujet. On en a parlé hier, c'est Elisabeth qui a été agressée par trois personnes. Ils n'ont pas été interpellés, il y avait une quinzaine de témoins, personne n'a réagi d'ailleurs. Et pour le moment, l'enquête est en cours, elle a été ouverte après la plainte déposée. Donc par cette étudiante qui affirme avoir été frappée, insultée en pleine rue au motif qu'elle portait une jupe. Véronique.
Oui, bonjour Pascal.
C'est ce qu'elle a dit en tout cas.
J'habite pas Strasbourg, j'habite au Mans.
Ah, vous habitez au Mans, pardonnez-moi.
Non.
Excusez-moi.
J'aime bien, j'adore Strasbourg, la petite
c'est une
France,
jolie ville, c'est une très jolie ville.
Mais oui, enfin j'entends, c'est fou, c'est n'importe quoi. Non, moi je dirais c'est grave. C'est grave. Moi j'ai 63 ans, quand j'ai entendu ça... j'ai eu peur. Je me suis dit, mais on va où ? Moi, ça m'a rappelé ce qu'on dit aujourd'hui, quoi, où nos mères, enfin, moi, ma mère, quand je suis née en 57, elle n'avait pas le droit d'avoir un chéquier. Il fallait qu'elle demande à son mari pour travailler. On y retourne.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut attendre un peu, il faut attendre l'enquête, parce que Marlène Schiappa parle d'un harcèlement de rue. Et à mon sens, je ne suis pas sûr que ce soit exactement un harcèlement de rue. C'est bien autre chose. Il y a un fondement idéologique qui peut justifier l'agression dont cette jeune femme a été victime. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre précisément l'enquête.
Et d'ailleurs, elle a rectifié, elle a fait deux tweets, Marlène Schiappa. Le premier parlait d'harcèlement, le deuxième tweet parlait d'agression. Elle a bien compris qu'il y avait quelque chose de plus grave qu'un simple harcèlement. Là, on est dans une agression. Quelqu'un qui a été frappé.
J'ai un fils chez moi qui a 25 ans. Et c'est vrai que, du coup, différence de génération, j'aime bien voir aussi, lui, comment il réagit par rapport à ce genre de choses. Et je lui dis, mais toi, t'en penses quoi? Et il me dit, soit c'est une fille qui fait partie des musulmans, etc., et elle a croisé des gars du même religion qu'elle. Et
alors,
qui
c'est,
me
pas, dit, t'as pas c'est pas le cas, hein, a priori.
Non, alors voilà, femme, alors, je lui dis non, apparemment, non. Alors, il me dit, soit elle a fréquenté un de ces garçons-là, et... les copains, etc. Ben, je dis non, elle a pas dit qu'elle les connaissait. Mais il me dit, alors là où j'ai trouvé ça grave, il a 25 ans. Il me dit, non, elle a pas dit, sûrement pas dit, elle ne dira pas qu'elle les connaît, parce qu'elle sait qu'après, elle aura des représailles. Vous vous rendez compte, à 25 ans, un jeune
Français... faut attendre, en tout cas, faut attendre.
Oui, non, mais vous vous rendez compte,
faut être prudent.
Lui dit, elle a fréquenté un de ces gars-là, si ça se trouve, et elle est plus avec lui, et il supporte pas qu'elle se mette en jupe, et donc...
Oui. Mais là, il n'en sait rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre. Je lis le tweet de Marlène Schiappa. Ce qui s'est passé à Strasbourg est inadmissible. Ça, c'était le premier tweet. C'est pour défendre le droit des femmes à circuler librement que nous avons créé la verbalisation du harcèlement de rue en 2018 et demandé au préfet, avec Gérald Darmanin, de doubler ces verbalisations. Bon, ça, c'est le premier tweet. Et il n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Donc, il y a un deuxième tweet qui arrive ensuite. J'adresse tout mon soutien à la femme qui a déposé plainte suite au harcèlement suivi d'une agression insupportable. Les mots ont un sens, vous voyez, c'est
Mais moi, je dis, c'est grave, et il faut absolument qu'on enraye cette violence qui monte, mais à une vitesse effroyable. Parce qu'on entend tous les jours qu'il y a des gens, oui, il y a une agression, il y a eu, oui, bon, les gens se sont énervés, il y en a un, il a un problème, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes de divorce, etc., il s'énerve. Mais là, vous vous rendez compte, une jeune femme qui porte une jupe, mais qui n'est même pas provocante. Simplement le fait qu'elle est en jupe, elle se prend un coup de poing dans la figure. Mais enfin, moi, ça m'affole, quoi.
Aurélie est là également, qui voulait réagir sur ce thème. Merci beaucoup, Véronique. Aurélie.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Merci.
Bonjour. Alors je suis un peu dans la même consternation que Véronique, c'est-à-dire que je ne comprends pas bien, on n'a pas tous les éléments non plus pour juger, on ne sait pas exactement quel est le motif revendiqué. S'il s'avère vraiment que c'est la jupe, c'est très grave. Et ça s'analyse aussi par rapport à la confession de l'agresseur.
Mais c'est ça qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut être prudent.
Voilà.
Parce que le harcèlement de rue.
Voilà.
Le harcèlement de rue. D'aborder une femme parce qu'elle porte une jupe.
Lourd, voilà.
Bon. Voilà. Mais ce qui est différent là, c'est de reprocher à quelqu'un de porter une jupe. Vous voyez la différence?
C'est ça.
Qui n'est pas tout à fait du harcèlement de rue, là, on est sur autre chose.
Tout à fait, et c'est bien bien plus qu'un retour en arrière, car une loi datant de 1800 qui a été abrogée, il me semble, en février 2013, interdisait les femmes de porter un pantalon. Donc c'est bien bien plus qu'un retour en arrière. C'est... Donc on nous fait mettre des masques, et on l'entend, mais à longueur de temps, donc on nous... cache le visage, maintenant il va falloir cacher nos jambes. Moi je porte très régulièrement, été comme hiver, des jupes au-dessus du genou et rien ne m'en empêchera.
Ben vous avez bien raison. Restez avec nous Aurélie, on va marquer une pause.
Ça, mais il faut de tout pour un monde heureux.
Mais et surtout, voilà, vous avez parfaitement raison de vous habiller comme vous le souhaitez. Je ne peux que vous encourager là-dedans Aurélie. Une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Alors on parle évidemment de l'insécurité, on était avec Aurélie, que je remercie pour sa franchise, pour sa liberté, qui a bien raison de porter des jupes au-dessus du genou. Merci Aurélie.
Merci Pascal.
Merci
et
à
puis,
vous.
Merci d'évoquer ces sujets à l'antenne pour essayer de faire avancer les choses et les faire avancer dans le bon sens.
Merci à vous. Alors vous êtes très nombreux à réagir sur ce qui s'est passé à Strasbourg. C'est François qui appelle de Nantes. Et Nantes est une ville particulièrement insécure aujourd'hui, on le sait. C'est une ville qui était très calme il y a quelques années. Et régulièrement dans l'actualité, on a vu que le soir notamment, on a eu des témoignages et puis on a même entendu entendu l'adjoint au maire, je crois que c'est Pascal Bollot, qui disait lui-même dans une interview à Presse Océan, notre confrère de Nantes, disait on ne va pas se raconter d'histoire, ce n'est pas sécure de sortir dans Nantes le soir après 23h. Donc il n'était pas dans le déni, manifestement, et il est maire adjoint à Nantes. Bonjour François.
Bonjour Monsieur Pro, comment allez-vous ?
Mais écoutez, je vais bien, vous êtes nantais.
Ah oui, 100% et 100% breton aussi. Je vous remercie. Je vous remercie de prendre mon appel. Oui, effectivement, la fibre sociale, disons, la fibre de la société a beaucoup changé ces dernières années, dont les valeurs morales et les valeurs, disons, le respect, dont le respect à la gente féminine a beaucoup été dégradé. Et ça, c'est choquant. Ce qui s'est passé à Strasbourg, ben, c'est très bien qu'on en parle actuellement. La jeune femme est très courageuse et brave d'avoir parlé, d'avoir montré ceci à l'antenne, parce que c'est des choses qui se produisent régulièrement. Et malheureusement, il y a une intimidation, une sorte de police dans les rues. Ça, on ne peut pas dire ce qui c'est, mais une intimidation pour...
Pourquoi vous dites on ne peut pas dire qui c'est femme, Pourquoi vous dites on ne peut pas dire qui c'est?
Parce qu'on ne sait pas actuellement. Mais c'est des personnes qui ne partagent pas la valeur de la République, qui ne partagent pas la valeur, le respect de la gente féminine.
Oui, alors là, soyons clairs, vous parlez, et ça peut exister, de personnes islamistes radicales. C'est sans doute une poignée de personnes qui veulent faire appliquer sur le territoire de France des mœurs qui ne sont pas les nôtres. C'est ça que vous voulez dire?
Ça se produit en Europe. J'ai vécu en Grande-Bretagne, c'était pareil.
Mais convenons que c'est une minorité de personnes qui sont dans cette disposition d'esprit.
Il suffit qu'un groupuscule uniquement.
Oui, c'est ça.
C'est ça la chose, malheureusement.
Bien sûr, c'est un groupuscule.
Qui veulent changer la société. Il y a des minorités qui veulent changer la société actuellement au niveau des statuts, au niveau de l'histoire, mais sans comprendre l'histoire.
Mais nous sommes d'accord, c'est un groupuscule. Mais je reprends ce que vous disiez, parce que c'est intéressant. Vous dites, pour les femmes, c'est un retour en arrière. Pas tout à fait, François. La société française des années 70, elle était infiniment plus machiste pour les hommes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Être une femme était plus compliqué. Dans les entreprises, il y en avait peu. Elles gagnaient évidemment beaucoup moins d'argent. L'inégalité salariale était encore plus forte. Elles étaient mal considérées, etc. Vous voyez, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits.
Beaucoup de progrès, mais il y a encore du travail à faire. Moi, j'ai des amis qui sont slaves, des jeunes femmes slaves, un peu moins jeunes aussi. Elles n'ont pas de problème dans leur pays en tant que telles. Sauf, elles ne pourraient pas porter la même chose qu'elles portent en France. Et une jeune femme m'a montré son décolleté. C'est un peu le décolleté que la dame a été refusée au musée d'Orsay. Elle me dit, est-ce que ça va passer en France? J'ai dit, c'est un sérieux problème actuellement en France. Je dis, tu ne pourras pas sortir comme ceci en France.
Faut pas exagérer, François. Les femmes ont des décolletés à Paris. Et à Nantes aussi.
Ah oui, mais il faut entendre les commentaires qu'elles vont avoir. C'est sûr, les jeunes femmes peuvent sortir ce qu'elles veulent. Mais jusqu'à un point où il va y avoir quelqu'un qui va leur dire quelque chose.
Écoutez...
Et c'est produit, et ça se produit régulièrement. Mais malheureusement, on n'entend pas ça tous les jours.
Bon, en tout cas, c'est un sujet qui vous passionne. On va peut-être marquer une nouvelle pause à 13h45. On va se diriger tranquillement vers notre duel. Ce sera notre duel du jour. On est monothème, pas monothème d'ailleurs, parce qu'on a parlé effectivement du congé de paternité aussi. Mais il y avait beaucoup d'autres sujets. On n'a pas du tout parlé de Bourvil. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Allez, un petit mot de Bourvil. Bonjour Martine.
Bonjour Pascal.
Parce que Bourvil est mort il y a 50 ans, jour pour jour. Son fils est conseiller municipal à Nantes. Il s'appelle Monsieur Rimbourg.
Oui, ça je sais.
Pourquoi vous aimez Bourvil?
Ah, parce que ma maman aimait beaucoup Bourvil, et puis bon, moi je vivais seule avec ma maman, et puis elle écoutait beaucoup les chansons de Bourvil. On regardait beaucoup la télévision, enfin on n'avait pas beaucoup de chaînes, mais on regardait les pièces de théâtre avec Bourvil, et c'est vrai qu'il a fait partie de notre... comme de notre famille, on l'aimait beaucoup. Ma maman en était très fan. On mettait souvent ses disques, les 33 tours à l'époque, et on écoutait ses chansons.
Quelles sont les chansons que vous aimiez?
Le petit bal perdu.
Alors, on l'a entendu.
Ouais, qu'est-ce que je l'aime bien avec Pierrette Bruno. Elle est peut-être moins connue, cette chanson, mais elle est très jolie.
Je l'aime bien. Il y a également un oranger.
Un oranger aussi.
Sur un ciel.
Un oranger sur le sol irlandais.
Et puis la tendresse aussi.
La tendresse.
On le livre sans richesse, presque sans le sou.
Magnifique.
Des seigneurs et des princesses.
Toujours d'actualité.
Exactement. Et également, elle vendait des cartes postales et aussi des crayons.
Ah oui, tout à fait. J'adore.
Et vous aimez le comédien aussi?
Ah oui, j'aime beaucoup le comédien, mais aussi le comédien de théâtre. J'avais regardé La Bonne Planque à l'époque avec Pierrette Bruno. Je l'aimais bien dans les opérettes aussi avec Luis Mariano et Annie Cordy. Et pour tout vous dire, le jour où il a disparu, ma maman pleurait dans la cuisine. Je suis allée la voir et elle m'a dit « J'ai une triste nouvelle à t'apprendre, Bourvil est mort ». Et je nous vois encore toutes les deux à pleurer dans la cuisine pour la mort de Bourvil.
Mais vous étiez toute petite, vous aviez 8 ans.
Moi j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, ma maman, je ne sais plus. Et puis on a pleuré l'une contre l'autre parce qu'il faisait partie de chez nous, quoi, comme si c'était notre famille. Et c'est vrai que bon, c'est une époque révolue, hein, mais il a bercé quand même mon adolescence et mon enfance, Bourvil.
Dernier film de Bourvil, c'est Le Mur de l'Atlantique.
Oui, il était très malade d'ailleurs.
Exactement, avec Jean Poiret et Sophie Desmarais.
Ouais,
il était sorti, en fait c'est le dernier film qu'il a tourné. Et ouais. Le dernier film qui a dû sortir, peut-être, c'est Le Cercle Rouge.
Oui, c'est ça, oui.
Le Cercle Rouge a dû sortir après Le Mur de l'Atlantique. Mais le dernier film qu'il a tourné, c'est Le Mur de l'Atlantique, qu'il avait tourné d'ailleurs quelques jours avant sa mort. Hein.
Oui, parce qu'en plus, il avait du mal à finir ses tournages. Ouais. Il s'arrêtait souvent parce qu'il n'en pouvait plus. Hein. Mais on ne l'a jamais vu, ça ne se voit pas dans les films. C'était un grand professionnel. C'était quelqu'un de tendre. Et de généreux, et en plus très chaleureux. C'était quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Et c'est vrai qu'il a bercé mon adolescence et mon enfance. Et
un extrait peut-être du Mur de l'Atlantique, Martine.
Oui. Oui. Reviens, toi. Reviens, joli papa. Je voulais sûrement t'expliquer.
T'es un monstre. T'as brisé ma vie.
Non. I love you. Joli papa, I love you.
Non. Papa.
Tout ce que j'ai fait. C'était pour revoir Juliette et mon baby.
Alors, va-t'en. Ça déshonorait ma fille.
Film de 70, je ne sais pas de qui c'est d'ailleurs. C'est un film de Marcel Camus. Voilà, je suis en train de regarder.
Je
n'ai pas revu depuis très très longtemps. Alors Olivier est là également. Olivier, oui. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et on parle de Bourvil.
Merci pour mon appel. Ah oui, c'est Bourvil. Moi, j'ai 64 ans et je devais avoir 14 ans quand il est mort. Et j'aimais tellement Bourvil que du coup, j'ai découpé la photo de son visage qui était dans un journal annonçant sa mort, et je l'ai collé au fond de mon bureau. J'avais un bureau en bois comme à l'époque où on tirait la planche pour s'appuyer, et dans le fond j'avais scotché la photo de Bourvil. Et pour moi, c'est le plus grand acteur de son époque, qui était capable de faire rire, de faire pleurer. C'est un acteur très très rare.
Et quels sont les films que vous retenez?
Alors, on va pas parler des films comiques, parce que c'est vrai qu'il excellait là-dedans. Mais moi, il y a un film qui m'a énormément touché, c'est Fortuna, avec Michel Morgan, et qui se passe pendant la guerre. Et le rôle que tient Bourvil dans ce film est époustouflant, tendre, touchant. C'est vraiment un rôle extraordinaire. Et c'est là que l'on voit que c'est un grand comédien, parce qu'on voit le personnage, et on ne voit pas André Bourvil. Alors, il y a plein de grands
comédiens. Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un brave homme, au fond,
qui va
aider une grande bourgeoise.
Voilà, qui a deux enfants. Et puis, petit à petit, il va se créer une amitié un peu forte, un peu plus forte. Et puis, avec les enfants, c'est un peu les siens. Jusqu'au jour où malheureusement, le mari revient et Bourvil prend sa valise et s'en va.
Oui. Et ça, c'est un film de Alex Joffé de 1960, je vérifiais. Mais c'est vrai que, comme tous les grands comiques, c'est vrai aussi pour Coluche, et c'est souvent une banalité de le dire, ils sont formidables parfois dans la tendresse, dans l'émotion, dans autre chose que le rire.
Et c'est là où on voit que ce sont des grands acteurs. Mmh. Et aujourd'hui, pour moi, bon, il y a Depardieu qui est capable aussi de sortir de ce visage de Depardieu pour incarner un Benet, pour incarner un flic, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est assez rare. Il y a certains comédiens qui jouent un petit peu toujours la même chose et c'est dommage. Mais pour moi, Bourvil, surtout quand on le voit par exemple dans Le Cercle Rouge.
Il est formidable. Commissaire Mattei avec ses chats.
Ah oui, c'est un très très grand, très très grand personnage.
Je suis d'accord avec vous. Une petite musique et puis on va annoncer le débat. Une petite musique de Bourvil.
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père.
Alors je ne sais pas si Bourvil a autant de succès auprès des jeunes générations, par exemple, que Louis de Funès. Et je ne le crois pas, pour tout vous dire. Je pense que Fernandel non plus n'a pas le même succès. De Funès,
il cartonne.
Ben oui, il franchit les générations. Bourvil, alors on le voit dans les films avec De Funès, évidemment dans Le Cornio, on le voit dans La Grande Vadrouille, mais il est moins iconique. J'ai envie de dire que de l'est Louis de Funès.
Comme la montre à son tic-tac, le gendarme à sa tactique. Attention, je vous explique la tactique du gendarme.
C'est génial. C'est génial. Bon, monsieur Tessier.
Allez.
Le débat du jour, le congé paternité. Est-ce que c'est rétroactif? Parce que moi, j'ai eu plein d'enfants que je pourrais avoir. Ce serait bien un congé de paternité rétroactif.
Ce serait pas bien, vous verrez moins.
Ah, vous êtes gentil, ah, puis oui. Mes enfants me verraient plus, donc ils en auraient marre.
Le débat continue. Allez, bébé vient d'arriver, premier moment en famille, premier biberon, première nuit blanche pour certains, le début de la plus belle des aventures. Et comme on dit dans Le Roi Lion... On sort ensuite de la maternité, on est sur une autre planète. Sauf qu'après les 3 jours de naissance et les 11 jours de congé de paternité, si vous avez tout enchaîné, retour à la réalité.
Vous avez pas oublié quelque chose, hein ? Entrée de vacances !
Eh oui, il faut reprendre le travail, mais avis au futur papa, l'Élysée a donc annoncé que la durée du congé de paternité allait doubler et passer de 14 à 28 jours. Normalement, en juillet 2021, une partie sera obligatoire, le nombre de jours précis n'est pas encore arrêté. L'objectif, eh bien, c'est d'inciter davantage de pères à profiter de ce congé. 8 salariés sur 10 en CDI le prennent, mais moins de 60% de ceux qui sont en CDD s'arrêtent. Alexandre est un jeune papa, il aurait bien aimé profiter de cette évolution.
11 jours, c'était bien trop court, à la fois pour le bébé, parce que c'est à ce moment-là qu'il crée ses liens d'attachement avec ses deux parents, et c'est hyper important pour le papa. Il a besoin de temps pour prendre ses fonctions, il a besoin de temps pour créer du lien avec son enfant, et puis c'est important pour la maman. Elle a besoin que le papa soit là pour assumer sa part du travail.
Tu es mon millésime, ma plus belle année.
Le but, plus d'égalité entre les mères et les pères. Mais comment ça se passe ailleurs en Europe?
Chez nos voisins espagnols, le congé paternité de 3 mois s'apprête à s'étirer pour atteindre 4 mois indemnisés à 100%. La Finlande accordera bientôt 6 mois et demi de congé paternité. Enfin, au Portugal, comptez 1 mois de congé paternité, dont une partie obligatoire.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais au final, qui va devoir sortir le porte-monnaie pour financer ces 28 jours? Qui va payer?
Concrètement, les hommes auront droit à au moins 3 jours de congé de naissance payés par l'entreprise, plus 25 jours de congé pris en charge par la Sécurité sociale, indemnisés jusqu'au salaire plafond de 3 400 € par mois. Au-delà, pour les hauts salaires, des accords d'entreprise pourront compléter l'indemnisation.
Et attention aux entreprises qui ne respecteront pas ce nouveau congé de paternité et la partie obligatoire. Elles s'exposeront à une amende de 7 500 €. Benoît Serre, c'est le vice-président de l'Association nationale des DRH. Il émet quelques réserves.
Ça désorganise un peu parce que si vous cumulez ça, plus le télétravail, plus les RTT, plus les machins, on a besoin des gens de manière un peu stable dans l'activité.
Alors une question se pose, 28 jours de congé de paternité, est-ce indispensable ? Avec nous, en studio dans un instant, et sans langue de bois, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, et le docteur Gilles Lazimi, membre de la commission d'experts des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant.
Et à 13h58, on va marquer une pause. Nos amis sont là, ça va être un débat absolument passionnant, générationnel peut-être, parce que, comme souvent sur ces sujets-là, les gens de 20 ou 25 ans ne pensent pas forcément la même chose que les gens de 60, qui eux-mêmes ne pensent pas la même chose.
Vous
que les
pas
gens
de généralité.
Vous avez raison, faut éviter, mais en même temps, il y a des grandes tendances. convenons-en. Nos parents n'avaient pas le même rapport avec nous que nos enfants auront avec leurs enfants. On ne peut que le constater. Mourad Djebari va faire des infos dans une seconde. Ça va peut-être être un jeune père. Et il voit les choses peut-être différemment. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.
Il est 14h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et avec Mourad Djebari pour le moment et pour le flash.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bruxelles présente en ce moment son nouveau pacte sur la migration et l'asile. Il doit rendre obligatoire la solidarité de tous les pays de l'UE, sans non plus obliger les pays à ouvrir leurs portes. Et c'est dans ce contexte que 133 migrants à bord d'un bateau d'une ONG vont débarquer à Marseille. Les migrants ont été secourus ce week-end en Méditerranée. Le bateau de l'ONG n'avait pas pu s'approcher des côtes italiennes pour débarquer. Un conseil de défense a eu lieu ce matin à l'Elysée, alors que les contaminations du coronavirus et le taux d'incidence augmentent à Paris. Olivier Véran, ministre de la Santé, pourrait annoncer des restrictions ce soir lors d'un point presse à 19h. Alexei Navalny va rester en Allemagne pour suivre son traitement. L'opposant russe qui aurait été empoisonné est sorti ce matin de l'hôpital de Berlin. Il est sorti d'affaire mais pourrait avoir des séquelles. Votre météo de cet après-midi, une France coupée en deux et sous la pluie de La Rochelle à Belfort. Il fera 15 à Brest, 24 à Marseille, 20 à Lille, 23 à Bourges, 22 à Reims, 24 à Bastia. RTL, il est 14h passé de 2 minutes. La suite avec vous, Pascal.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Le duel des auditeurs ont la parole.
La durée du congé de paternité va doubler et passer à 28 jours. Est-ce indispensable? Nous sommes avec Sophie de Menthon. Vous êtes chef d'entreprise, chacun vous connaît. Vous êtes président du mouvement éthique. Et effectivement, les chefs d'entreprise pensent à leurs entreprises, peut-être moins à la famille, et ont peur de cette mesure. On a écouté tout à l'heure un chef d'entreprise entre 13h et 14h. Et puis, le docteur Gilles Lazimi, qui est membre de la commission d'experts des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et c'est à lui que je vais d'abord donner la parole. En quoi est-ce précisément, selon vous, indispensable que les pères accompagnent pendant 28 jours à la fois leur épouse ou leur compagne et également leur nouveau-né?
C'est indispensable parce que c'est nécessaire, utile et bénéfique pour le père, pour la mère, pour l'enfant, pour le développement de l'enfant. Ça va permettre d'être plus nombreux, plus attentifs, avoir du temps avec son enfant et du temps avec son enfant au plus jeune âge. On sait que cette période de 1000 jours, c'est essentiel pour le développement de l'enfant. C'est 100 milliards de neurones, un enfant. C'est pas un être fini. Il va se construire petit à petit. Il va se construire avec l'attention qu'on va lui porter. Hommes et femmes, les parents, les conjoints. Et ça, ce temps-là, si on l'a pas, eh ben, on n'est pas actif avec cet enfant. Et c'est une perte. Et on sait aujourd'hui, et on a plein d'études qui montrent dans le monde entier, que la présence des deux parents, quand il y a deux parents, bien évidemment, eh ben, c'est bénéfique et c'est utile. Donc, ça, c'est une mesure qui est indispensable. Et nous, on aurait aimé à la commission que ça soit 9 semaines. Vous imaginez? C'est déjà très bien. On a augmenté à 4 semaines. Il faut attendre 2002 pour avoir 11 jours. 2002, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, moi, en tant que médecin, je veux vous dire, je suis médecin généraliste. Ça fait 35 ans que j'exerce et j'ai vu des mamans avoir des enfants depuis 35 ans. Et je vois depuis 15 ans des mamans en grande difficulté. Des mamans qui ont une grossesse qui est difficile, avec un travail, des trajets. Des mamans qui accouchent et qui se retrouvent seules. On n'est plus dans l'environnement familial d'avant, avec peut-être les grands-parents plus présents. C'est très, très compliqué, c'est très dur pour la grossesse de ces femmes. Et puis l'accouchement, on se retrouve tout seul avec un enfant. Alors on n'a pas appris à être parent, hein, c'est clair, et on a moins cet entourage. Donc il faut être deux. Et ça, c'est important d'être deux. Et ces deux parents vont apporter à l'enfant chacun des choses
J'entends
différentes.
Bien.
Et aussi partager
la parentalité. Et c'est important d'être deux dans un débat aussi.
Comment ?
Je dis c'est important d'être deux dans un débat. Donc, Madame de Menthon peut vous répondre, bien sûr, puisque moins j'interviens, mieux c'est.
Et docteur, à la fois, je bois du petit lait en vous entendant, et vous allez me pardonner, mais j'ai des réactions qui sont à la fois celles d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère, d'un chef d'entreprise. D'abord, je bois du petit lait, pourquoi ? Parce que je trouve ça extraordinaire, votre discours, au moment où on autorise les femmes à avoir des enfants seules, et à les faire fabriquer en France ou ailleurs, et avoir des enfants seuls. Et moi, ça m'a toujours paru aberrant d'avoir un enfant seul, sauf si la vie vous y contraint et qu'on quitte le père. Enfin voilà, ça peut arriver. Donc déjà, contradiction folle de notre époque. Vous êtes en train de faire une analyse qui est en contradiction avec toutes les autres lois qui passent. Ensuite de ça, vous dites que il a absolument besoin de son père pour ses neurones, certes.
Père ou conjoint.
Mm-hmm. Tout à fait. Vous faites allusion au fait qu'il y ait deux pères ou deux mères.
Par exemple.
Oui, mais je pense que pour deux pères ou deux mères, c'est beaucoup plus important d'avoir un congé ensemble. Parce que quand on est deux pères, il est important que les deux aient le même rapport à l'enfant. C'est encore un autre cas qui me paraît intéressant. Parce qu'il n'y en a pas un qui peut avoir le monopole de l'enfant sous prétexte qu'il est père mais mère. Si je puis dire. mais donc, les cas sont extrêmement nombreux. Et alors, d'abord, alors aussi quelque chose de très simple. Il y a plein de jeunes ménages qui habitent dans deux pièces. Pardonnez-moi, mais moi, quand j'ai eu mon bébé, j'étais très contente d'avoir le premier jour, le père, les trois premiers jours, c'est fondamental. Après, j'étais très contente d'être toute seule, d'être dans mon lit avec le bébé, qui dégage, qui ne dise pas j'ai faim à midi, même s'il est très sympathique et s'il savait faire des choses, de pouvoir garder ma chemise de nuit. Alors, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais bon. Donc, ensuite, vous avez votre mère qui débarque. Alors, généralement, dans deux pièces, quand elle débarque avec le père qui est là, ce n'est pas forcément génial. Donc, il y a toute une forme aussi de vécu que j'ai là. Moi, je me souviens, quand j'allais voir mon petit-fils qui naît, ma fille mourait d'envie que je sois là, mon gendre me virait. Donc, tout est compliqué de ce point de vue-là, et c'est surtout... Alors,
j'ai l'impression
la seule
que vous
n'êtes
pas tout à fait
dire...
sur le même plan,
non.
Mais on va laisser passer... On laisse juste passer une pub, parce que vous parliez vraiment
juste
sur un
c'est
plan...
C'est l'obligation, moi.
Oui. C'est un plan médical, c'était ça qui pouvait être intéressant. On pourrait vous répondre quand même que quand un homme travaille... Bon, il part à 9h du matin, il rentre à 17h ou 18h le soir. Il va le voir, son enfant.
Ah oui, il peut s'y coller.
Il va le voir le soir, il va le voir le matin. Et le bébé, là, il est dans le berceau quand même, les 28 premiers jours.
On passe moins de temps, on arrive crevé, et on n'a pas le temps.
On arrive crevé.
Il faut prendre du temps avec l'enfant.
Oui, mais le bébé, il est dans le berceau pendant les 28 jours.
Non, non, mais il n'est pas que dans le berceau.
Il
est dans les bras. Il est dans les bras, il dort beaucoup. Il est dans les bras, on va le
toucher.
On va le toucher, on va lui donner son biberon, on va s'occuper de lui.
Mais ça, on peut le faire.
Attendez, beaucoup de pères qui travaillent. Ne se lève pas forcément la nuit. Moi, pour avoir beaucoup de patients...
Il faut les obliger, alors il faut faire une loi. Ben voilà.
Non, mais combien ça dort un bébé entre les
Ça peut effectivement dormir 13h, 14h. Ça peut dormir
plus
beaucoup. Oui, mais ces temps-là, ces premières journées, oui. on a démontré, on a prouvé que le cerveau d'un enfant, c'était pas simplement, du moins, c'était pas qu'un estomac, ça se développait. Et toutes les sollicitations, toutes les incitations, tous les sourires, tous les touchés, toute la présence, le corps à corps, tout ça. Mais c'est majeur pour l'enfant.
Moi, je vous répondais, oui, j'entends ce que vous dites, mais on arrive à 17h ou 18h le soir et le père, il est là aussi. Mais on continue la discussion.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, est-ce indispensable ce congé de 28 jours? Nous sommes avec le docteur Gilles Lazimi. Nous sommes également avec Sophie de Menton. Mais il faut qu'on reste évidemment sur ce même thème. Est-ce indispensable? Indispensable pour le père, indispensable pour l'enfant. C'est ça qui nous intéresse. Monsieur Lazimi dit oui, c'est indispensable qu'il soit là, le père, tout le temps. Quand je lui dis... Si je pars à 9h du matin, je rentre à 17h du soir, et ça ne suffit pas. C'est indispensable pour l'enfant et pour le père.
Pour l'enfant, pour le père et pour la mère, et même pour la société, car le développement de l'enfant, si on a toutes ces présences, ça va permettre effectivement de donner toutes les chances de développer ces connexions neuronales. C'est essentiel de développer l'enfant. Et plus on agit tôt...
Donc
les
nous, on n'a pas été développé parce que personne n'a fait ça. Vous n'avez pas été développé, j'ai pas été développé, tout le monde a... Non, mais vous me faites peur.
Mais non, je vous fais pas peur.
On serait comment? On aurait été formidable autrement.
Il y a un millénaire, les hommes pourraient dire ça il y a un millénaire. On avance, on progresse. On sait aujourd'hui comment fonctionne un cerveau. On sait aujourd'hui que si on prend plus de temps...
Pardon, mais est-ce que c'est un progrès?
Attendez, je vous réponds. On sait que si on prend plus de temps avec un enfant, si on le stimule,
nous, on n'a pas été élevés comme ça.
Ben oui, mais écoutez, avant, on frappait les femmes, c'était permis, autorisé.
Ça continue,
aujourd'hui, on n'a plus le droit et c'est tant mieux. Avant, on frappait les enfants,
c'est plus
autorisé. Et pourtant, ces enfants frappés sont devenus des adultes comme nous. Mais s'ils n'avaient pas été frappés, peut-être qu'ils auraient moins de soucis que nous en avons.
Il y a évidemment des progrès immenses et on ne va pas mettre les coups sur le même plan. Être près de son enfant dans les premières semaines et rajouter 15 jours ne va pas changer ni la, femme, ni la face du monde, ni celle de l'enfant. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Et d'autre part, en vous écoutant, on dit c'est un énorme progrès, etc. L'enfant roi est beaucoup moins bien éduqué qu'il ne l'a été. On a des problèmes aujourd'hui, donc c'est pas une question de temps passé, etc. Culpabilité des parents, on veut en donner toujours plus, on se sent coupable de pas donner assez de temps. Et moi, on constate qu'on a beaucoup plus de difficultés à élever les enfants qui ne sont pas élevés. On le sait parce que souvent les deux parents travaillent et d'ailleurs, c'est légitime qu'on puisse penser ça. Et puis, pardonnez-moi, mais il y a quand même le point fondamental. On peut être d'accord avec tout ce que vous dites, à condition que ce ne soit pas obligatoire par la loi.
Et si ça, ce c'est un véritable... Si ce n'est pas obligatoire, mais,
et
puis, il
attendez,
ne le
alors, je suis désolée, le père, il s'arrête, ok, pour s'occuper de son bébé, très bien, et développer ses neurones. Est-ce qu'il a le droit de faire du télétravail parce que les neurones de l'enfant...
Hein. C'est pas les siens.
Oui,
mais ses neurones aussi, parce que la satisfaction des pères est éminemment importante quand ils sont avec leurs enfants.
Alors, bien sûr, pour la suite après. Est-ce que, parce que si je vais jusqu'au bout, parce que moi, je suis ulcérée par la loi et par l'introduction dans la vie privée permanente...
C'est la loi qui fait société. C'est la loi qui nous permet de vivre en société.
La loi, excusez-moi, elle permet maintenant de faire des enfants sans père, donc ça ne va pas vraiment avec ce que vous dites.
Non, il le faisait avant. Donc il n'y avait pas besoin de
loi. Elle permet de le faire. Et donc, ce n'est pas forcément un progrès de la loi si on vous écoute. Mais ce que je veux dire, c'est que le père, alors par exemple, est-ce qu'il a droit de rentrer, de faire du télétravail ? Il est dans une PME, ils sont 8, c'est l'horreur. Ah non, je prends un congé de paternité, là je serai absent 26 jours.
Ça, c'est la chef d'entreprise qui parle.
Oui, c'est la chef d'entreprise qui parle.
Mais la chef d'entreprise était mère aussi. La chef d'entreprise, le chef d'entreprise est père aussi. Et pour ses enfants aussi, c'est important.
Il n'a pas le droit. Est-ce qu'il a le droit de faire du télétravail ? Non, puisqu'il est là pour développer les neurones de l'enfant. Mais s'il n'a pas le droit de faire du télétravail, est-ce qu'on va aller surveiller s'il s'occupe de l'enfant ?
Écoutez, on a vu pendant cette période le télétravail. On a vu à quel point le télétravail, les gens étaient efficaces. Et même avec les enfants autour d'eux, ils arrivaient à faire des choses.
Oui, vous êtes médecin, pas chef d'entreprise ni salarié.
J'étais responsable d'un centre de santé avec plus de 25 personnes, je suis désolé, je sais ce que c'est que la direction d'une équipe, et on agit et on se dé...
Écoutez, ça n'a pas été le paradis.
Mais ça,
j'ai eu des salariés qui n'en pouvaient plus, qui suppliaient de rentrer avec des enfants à leurs pieds.
On a des entreprises qui ont même arrêté d'avoir des locaux parce qu'ils se sont aperçus que leurs employés travaillaient encore mieux.
Et
on s'est occupé des enfants. Écoutez, c'est quand même formidable.
J'ai connu des salariés qui donnaient un coup de pied à l'enfant en le baïonnant pour arriver 2002, à faire son conf call.
En 2002, premier congé parental au jour... Tout le monde criait, ça ne va pas être possible. C'est possible. Aujourd'hui, ça sera possible.
Je crois
parce
qu'on pourrait
être nuancé. Il y a un bénéfice pour l'employeur aussi. Parce qu'avoir des hommes et des pères qui sont en harmonie et qui sont bien dans leur famille et qui sont bien avec leurs enfants, c'est aussi avoir des personnes
au travail. Vous êtes en train de prétendre que personne n'a été bien, qu'il n'y a pas eu de connexion avec l'enfant.
Non, on sera meilleur. On sera meilleur.
Mais je ne suis pas du tout sûr.
Vous ne pensez pas que c'est un progrès. Vous avez le droit. 80% des Français pensent que c'est utiles et sont favorables. C'est quand même bien. Vous faites partie des 20%, je le comprends.
Non mais attendez, vous êtes caricatural, ce qui est étrange pour un homme aussi mesuré que doit être un médecin généraliste.
Attention, faut savoir, les 80%, les gens, tu leur dis aussi tu vas pas bosser et tu vas être payé.
Oui.
Pour avoir été père, et aujourd'hui grand-père, je peux vous dire que être parent, c'est pas une sinécure.
Ah oui,
c'est difficile, c'est dur et il faut aider les parents.
Je peux
vous assurer qu'ils préféreraient être au boulot peut-être pour certains.
Bah c'est ce que
il faut les aider. Il faut les aider. Et s'ils commencent dès le début avec leur épouse,
les
ils vont partager les tâches.
On va jouer à la pétanque, c'est pas moi j'en connais.
Ils vont comprendre.
C'est sûr.
Non, mais vous êtes. Alors, on va essayer d'être nuancé et de couper la poire en deux. Nous sommes dans un progrès qui consiste à impliquer le père le plus possible à la naissance. Ce progrès, il a été décidé par la loi. Et je pense que la loi n'est pas valable. On pénètre dans l'intimité des gens. Je vais jusqu'au bout.
Oui, non, je veux dire que c'est un comité d'experts de 18 experts qui ont étudié toutes les études.
C'est par la loi, mais c'est pas des études, c'est par la loi. Et je vous dis qu'il y a énormément de femmes qui n'ont pas envie d'avoir le père de l'enfant dans les pattes pendant 28 jours. Et ça, je suis sûre qu'il y a des femmes qui pensent comme moi, mais qui sont
sûrement,
heureuses.
Mais c'est étrange quand même ça comme raisonnement.
Écoutez, moi je connais beaucoup de femmes qui
n'ont pas accouché. Non, ça je vous confirme.
Moi je connais beaucoup de femmes qui seront heureuses. Moi je connais beaucoup de femmes qui seraient heureuses d'avoir enfin le père s'occuper du bébé et d'aller pouvoir prendre un peu de répit.
Qu'est-ce que vous faites dire qu'il ne le faisait pas?
Ben, il ne le faisait pas parce qu'ils étaient au boulot.
Mais c'est pas vrai, il y a 15 jours de plus.
Ils étaient au boulot, ça suffit. 15 jours, c'est essentiel, c'est vachement important.
Il y a des pères qui se précipitaient pour rentrer plus tôt. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas négocié ça avec l'employeur ?
Une pause. Une pause, sauf si Greg Caradoni, un jeune père. Formidable le témoignage de Grégory tout à l'heure. Vraiment, moi, il m'a beaucoup ému parce que je pense que ces sujets sont générationnels. Ça fait 4 fois que je le répète. Mais quand vous dites je veux pas avoir mon homme dans les pattes, comme vous dites. Je pense que les jeunes femmes.
C'est pas les mêmes hommes, c'est pas les mêmes femmes.
Ma fille non plus.
Ben oui, mais votre fille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Elle a des jeunes.
Qu'est-ce que vous pensez de notre débat, Grégory, qui écoute ?
Non, moi, je pense que. Nos deux invités ne pourront jamais avoir d'enfants ensemble.
Bon, on marque une pause. Moi, je trouve ça passionnant. En plus, c'est dans un bon esprit. Je trouve que ce débat... en Suède, c'est 60 jours de congé paternité. En Finlande, c'est 54. En Italie, c'est que 5. C'est drôle, ça, de voir... peut-être que la société italienne est plus macho et qu'on considère que les hommes doivent bosser et puis que les femmes s'occupent des enfants. Peut-être, hein. En Espagne, on pourrait considérer que c'est une société macho aussi. 16 semaines de congé de paternité. 16 semaines pour les hommes. Congé de paternité, c'est pour les hommes, a priori. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, Christophe est là, il est chef d'entreprise. Christophe, et il a 4 salariés. Donc, peut-être pense-t-il d'abord à son entreprise avant les neurones de son fils ou des neurones des enfants de vos employés. Bonjour, Christophe.
Bonjour Pascal, je suis Christophe et j'ai une entreprise, en même temps je suis jeune papa.
Ah.
Voilà. Donc, moi j'ai un peu de mal quand même à comprendre maintenant la France, parce que je trouve qu'on est quand même dans un état assez difficile et assez compliqué, et on n'arrête pas de faire en sorte de diminuer le temps ou la durée de temps de travail. Parce que c'est 28 jours, c'est encore du temps de travail en moins pour les salariés, on est bien d'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille être près de son enfant, mais qu'est-ce qu'on cherche dans ce pays ? Parce que les entreprises, à force de ne plus avoir de personnel, vont mettre de plus en plus la clé sous la porte. C'est très compliqué. Alors moi, je suis dans une région où, normalement, il y a un taux de chômage qui est quand même assez important, et je ne trouve pas de salariés.
Vous êtes dans quelle activité ?
Alors moi, je fabrique de l'emballage.
Et donc, vous trouvez pas de...
Ah non, je peux vous assurer que dans une période comme celle-ci, et dans un pays où il y a 10 millions de chômeurs, je ne reçois jamais de CV.
Bah, écoutez, il faut nous le dire, parce qu'on va vous aider, je pense. Mal les gens, ou vous les traumatisez, vous leur faites quoi?
700 000 demandes d'emploi et 74 000 chômeurs.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est... Donc c'est très compliqué. Alors, quand vous avez des salariés qui sont présents, eh bien, vous en profitez pour faire votre production, parce que moi, je suis quand même dans une production.
Comprend en fait l'aspect économique. Et là, Monsieur Lazimi va peut-être pouvoir vous répondre, parce que c'est vrai que là, c'est deux logiques en fait qui s'affrontent.
Oui, alors les logiques, elles s'affrontent, mais elles s'affrontaient aussi pour les femmes, pour les congés maternité. On s'est adapté. Et aujourd'hui, on y arrive. Donc peut-être qu'on va s'organiser pour planifier ces absences, et puis aussi pour les faire remplacer. Je crois que c'est possible.
C'est possible, mais pour les petites entreprises. Alors, on apprend à l'instant que Emmanuel Macron a précisé les choses. Il y aura 7 jours obligatoires, et pour l'entreprise...
En plus des 3.
Et pour l'entreprise et pour le salarié, ça veut donc dire qu'il y aura 21 jours qui seront facultatifs. Et à ce moment-là, ces 21 jours facultatifs, peut-être que l'employeur...
Il y aura des pressions, c'est sûr. Voilà. On aurait aimé que ça soit un peu plus, mais c'est déjà bien. Mais effectivement, il y aura des pressions de l'employeur et il y aura des pressions
notamment
sur
de la
carrière,
petite entreprise. Par exemple, quand on est dans une grande entreprise comme RTL, il n'y a pas de pression de ce type. Mais lorsque vous êtes dans une entreprise de 3 ou 4 personnes, Christophe...
Même 15.
Vous êtes, vous, chef d'entreprise, peut-être que vous direz à votre employé, écoute, si tu prends 21 jours, ça ne m'arrange pas.
Tout simplement, avec 4 salariés, quand vous avez mari et femme dans la même entreprise, pendant un mois, vous ne travaillez pas. Vous voyez ? Il y a tous ces côtés.
Si vous êtes que 4 et que sur les 4 il y a un couple, effectivement, vous n'avez pas de chance. En tout cas, c'est vrai que c'est un cas particulier.
Et vous avez dit que vous étiez jeune papa. Et alors, en tant que jeune papa, comment vous vivez ça ?
Écoutez, moi c'est simple, l'absence de mes salariés fait que je suis en permanence en train de pallier à ça. Donc c'est-à-dire que mon fils, je le vois quand je peux. Néanmoins, je passe beaucoup de temps avec lui, hein, puisqu'il a, il a presque 2 ans. Et dès que je le vois, je joue avec lui, je lui donne son bain, je lui change sa couche, enfin, je fais tout ce qu'il fait un papa. Et je pense que ça a l'air d'aller. Je pense pas qu'il ait de problème de, comment je dirais,
de problème neuronaux. En plus, c'est la qualité du temps qu'on passe. C'est la qualité du temps que passent les pères, souvent meilleure.
Oui, la qualité, mais il y a aussi tous les moments de la journée. Et c'est important. La nuit, par exemple, c'est important de changer la couche. C'est important d'avoir ce premier contact avec le bébé pour ensuite améliorer. Les pères dans les autres pays qui prennent ces congés sont très contents et très heureux de la relation qu'ils ont nouée avec ce petit enfant qui va devenir grand. Ça, c'est majeur. Donc, il faut essayer de le permettre. Je sais que c'est difficile dans certaines entreprises. Alors, si en plus on est marié et femme, c'est très compliqué. Mais effectivement, on va y arriver parce que c'est une évolution normale et positive. Et puis, il faut penser à l'avenir de ces enfants. Plus on passe de temps avec eux et plus la qualité est bonne, et plus ces enfants iront bien après, et moins on aura de problèmes dans la société et pour leur
avenir. Moi, je trouve que souvent, moins on passe de temps avec eux, plus la qualité est bonne. Je veux dire, une mère exaspérée, épuisée au bout de la journée, le temps est moins bon.
Je ne sais pas de quelle mère vous parlez.
Ça me fait penser à ces gens qui reviennent d'un club de vacances et qui disent « Ah, c'est formidable parce qu'on n'a pas vu nos enfants. On les donne le matin au club et puis au club enfant et puis on les retrouve les soirs. » Et je trouve ça toujours formidable. Alors, de passer des vacances avec ses enfants sans les voir.
Dans le rapport des 1000 jours, il y a un chapitre sur la parentalité. Il faut qu'on aide les parents, il faut qu'on leur explique ce qu'est un enfant, quels sont ses besoins, comment il se développe, qu'est-ce qu'on peut exiger d'eux et comment on peut les aider à élever leur enfant. C'est tellement difficile d'élever un enfant.
Il y a un instinct quand même.
Pas que ça suffit pas.
Non, l'instinct, ça s'apprend. Bon, je ne sais pas si j'aurais voulu être un petit menton.
Hein, bon, ils sont très contents.
Mais ça m'étonne pas. Il est 14h27. On va conclure avec Laurent Tessier, puis après on sera avec Flavie Flamand comme tous les jours.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.